France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, quel bilan pour la COP26 qui s'achève en ce moment à Glasgow. Après 12 jours de débats, de négociations, de tractations, quel contenu pour la déclaration finale que l'on attend toujours. Pour la première fois, les énergies fossiles pourraient y figurer, ce qui serait une petite révolution en soi, mais pour dire quoi au juste? C'est toute la question. Si c'est uniquement pour dire qu'il faudra penser à s'en occuper, c'est sûr que ça restera du blabla, comme le disent les jeunes militants pour le climat qui ont fait le déplacement. On a tout de même eu l'heureuse surprise au cours de cette conférence de l'ONU de voir la Chine et les États-Unis sortir du bois pour une déclaration conjointe. On a vu également plusieurs pays, dont la France, promettre de ne plus financer les projets d'extraction des énergies fossiles même à l'étranger. Il y a aussi ces constructeurs automobiles et ces États venus annoncer la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2040, mais la France n'en fait pas partie. Pour le reste, une grande question, les engagements pris seront-ils tenus? Sachant que 6 ans après la COP21, certains espoirs ont été douchés alors qu'il y a plus que jamais urgence. Avec nous pour répondre à toutes vos questions ce soir, 3 invités ici en studio. Laurence Tubiana, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice exécutive de la Fondation européenne pour le climat. Vous étiez à Glasgow jusqu'à hier, je crois. Anne Bringaud, bonsoir.
Bonsoir.
Coordinatrice des programmes du réseau Action Climat. Et avec nous également Amandine Rudgman. Vous êtes une des 150 de la Convention citoyenne pour le climat. Et vous aviez fait aussi le déplacement à Glasgow, vous nous raconterez tout ça. Puis évidemment, toujours là-bas, Sandy Dauphin de France Inter qui suit les questions d'environnement.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, nous partons à Grenoble. Michel est au bout du fil. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Vous aviez une question ou une double question, je crois.
Oui, voilà, donc je commence par la première. Apparemment, l'accord auquel va aboutir la COP26 réaffirme l'objectif de 1,5 degré. Donc moi, je voudrais savoir si c'est un bien ou un mal, sachant qu'il est plus que probable que cet accroissement de température sera atteint aux environs de 2030 ou 2035.
Vous nous donnez tout de suite la deuxième question, Michel?
Oui, la deuxième. Je voudrais savoir ce que contient l'accord en ce qui concerne les émissions négatives, c'est-à-dire la compensation carbone, le marché du carbone ou la capture du carbone.
Merci, Michel, pour ces deux questions. Allez, on prend la première, Laurence Tubiana, sur la question.
Sur le 1,5 degré, alors, on n'y est pas. Hein, quand on regarde les plans climat mis sur la table depuis Paris, on était quand même au-dessus de 4, enfin vers 4 degrés de réchauffement climatique avant 2015. Paris s'est achevé, indépendamment de l'accord lui-même, des plans climat qui étaient proposés par les pays, s'est achevé sur quelque chose entre 2,7 degrés et 3. Et certainement de Glasgow, avec les nouvelles mesures proposées, on est quelque chose autour de 2,4. Il y a eu des choses très optimistes qui ont été publiées il y a une semaine. Alors pourquoi c'est utile d'avoir cet objectif de 1 degré, de le garder comme finalement l'objectif central? D'abord parce que c'est pas du tout pareil que 2 degrés, qu'il y a beaucoup d'impacts du changement climatique qui sont beaucoup plus graves lorsque on est à 2 degrés. Alors la liste des choses qui disparaissent est assez longue. Hein, les récifs coralliens en grande partie, évidemment une bonne partie des territoires des petites îles, surtout que les modèles climatiques, et on l'a vu avec le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental d'études sur le climat en 2018, ce qui était un rapport qui avait été demandé par l'accord de Paris pour savoir qu'est-ce que ça représentait, la différence entre 1,5 degré et 2 degrés. Et ce rapport avait été assez effrayant, puisqu'on voyait une grande différence dans le monde entier, pas seulement évidemment dans les pays les moins avancés. Et puis, à l'été, on a eu le nouveau rapport actualisé du GIEC sur les modèles climatiques. Et ce qui se passe, c'est que à chaque fois, la nature des impacts est plus grave. Donc, pourquoi c'est important 1,5? C'est parce que ça maintient, et c'est en train de... Et moi, je le ressens depuis Paris, et puis je fais ça depuis 30 ans, donc c'est un peu trop long même. On voit que quand même, il y a une prise de conscience qui est beaucoup trop lente, mais les gouvernements, mais les sociétés aussi, même les entreprises commencent à avoir peur. Elle commence à avoir peur des impacts du changement climatique. Et ce 2,5 degré, le garder comme un objectif, même s'il est très difficile à obtenir, ça permet de maintenir la pression, parce que tout ça ne fonctionne que sur la pression.
Évidemment. Alors, je vous propose une chose avant de répondre à la deuxième partie de la question de Michel, c'est d'aller retrouver Sandy Dauphin qui est à Glasgow pour savoir un petit peu si ça avance depuis tout à l'heure. Sandy, toujours des discussions sur le texte final?
Écoutez, une COP qui ne se termine pas par au moins une nuit blanche, ce n'est pas une COP. Laurence Tubiana, on sait quelque chose. Donc là, on a une interruption de séance plénière. L'équipe du président britannique est retournée travailler sur les textes. Il y a forcément des bilatérales, des négociations se poursuivent. Et donc Alok Sharma promet de revenir tout à l'heure, mais on ne sait pas à quelle heure, avec une troisième mouture du texte final de la COP26.
Est-ce qu'on peut dire en deux mots, Sandy, évidemment c'est toute une déclaration, c'est beaucoup de choses, mais on sait à quel niveau ça coince?
C'est toujours, il y a plusieurs points de blocage, mais c'est souvent la question des financements qui bloque au COP. Déjà, les pays vulnérables, les pays pauvres, on fait noter dans le texte et on fait acter le fait que la promesse des pays riches de fournir 100 millions de dollars par an n'était pas remplie. Donc déjà, ils sont arrivés à la COP avec ce grief. Et puis, on vous en parlait, les effets du réchauffement climatique se font ressentir de manière de plus en plus violente. Et les États vulnérables aujourd'hui disent, OK, nous, on ressent encore plus les effets du changement climatique. Il faut pas non seulement Il ne faut pas que nous aider à passer à une énergie propre. Il ne faut pas seulement nous aider à baisser nos émissions et à s'adapter au réchauffement climatique. Il faut compenser, parce qu'on subit des dégâts irrémédiables. Dans le jargon onusien, on appelle ça les pertes et dommages.
Merci Sandy. On vous retrouve évidemment dans un instant. On va essayer de répondre, je ne sais pas si c'est possible déjà, de répondre à la deuxième partie de la question de Michel sur les émissions négatives.
Alors, c'est surtout le marché du carbone dont on parle aujourd'hui. Il y a très peu de choses sur les émissions négatives qui sont... elle dans les scénarios. Alors, ce qui est intéressant tout de même, c'est que on a vu à un moment l'idée que on allait plutôt dépasser tout le budget carbone qui nous reste et puis essayer de revenir à la fin du siècle vers 1,5 degré avec ces fameuses émissions négatives. Bon, ça a été abandonné. Ce bout du texte a heureusement disparu. Mais donc, ce qui reste vraiment sur la table en discussion, c'est le marché carbone. Avec une grande question, est-ce qu'on va avoir des règles solides qui font que ce marché carbone servira pour de vrai? Et c'est la grande question, à réduire les émissions, notamment pour des secteurs qui aujourd'hui, comme l'aviation ou le transport maritime, n'ont pas de solution technologique de remplacement. Ou est-ce qu'au fond, tout ça n'est pas vrai et que c'est des fausses réductions qu'on est en train de vendre? Ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est assez joli, l'air chaud.
Alors justement, on va essayer de voir un petit peu ce que pensent toutes les organisations qui sont impliquées également dans on va peut-être pas dire dans les négociations, mais en tout cas dans le coup de pression qui est mis à Glasgow. Anne Bringo, vous qui faites partie du réseau Action Climat, d'après ce qui nous arrive pour l'instant de Glasgow, qu'est-ce qu'on peut dire, insuffisant mais quand même un petit pas?
Alors, il y a clairement une avancée avec l'inclusion de termes sur les énergies fossiles dans le projet d'accord actuellement. Par contre, avec beaucoup d'échappatoires et d'annonces très creuses. Les échappatoires, c'est par exemple de dire ce sont les énergies, on va arrêter le charbon, mais sauf s'il y a capture, stockage de carbone. Et ça rejoint la question justement des émissions négatives. C'est-à-dire que pour arriver à cette neutralité carbone à laquelle il faut arriver en 2050, c'est-à-dire cet équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote et l'absorption par les plantes qui grandissent par la photosynthèse notamment. Pour arriver à ça, certains proposent plutôt des solutions technologiques qui ne sont pas forcément existantes au niveau industriel, qui coûteraient très cher et qui parient là-dessus alors que c'est un mirage.
Et donc, au lieu de prendre des engagements de baisse,
exactement. Par exemple, la France qui a rejoint l'initiative pour arrêter le financement à l'export du gaz, du pétrole et du charbon, dit finalement on va continuer quand même à financer le pétrole jusqu'à 2025 et le gaz jusqu'à 2035 s'il y a de la capture et du stockage de carbone. Et miracle, tous les projets qu'on nous a présentés propose cette option, donc tout va bien, on ne change rien. Donc vraiment, le diable est dans les détails. Et ces émissions négatives, ça peut être effectivement, si on s'appuie sur des technologies qui n'existent pas, qui ne sont pas matures, qui coûtent trop cher, c'est vraiment le pire et on va aller dans le mur. Il faut quand même rappeler qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est 55 millions de personnes en plus qui souffrent de la faim en Afrique. C'est 73 millions de personnes en plus qui souffrent de chaleur extrême en Europe. Donc ce n'est pas un point de détail et c'est aussi pour ça qu'on tient beaucoup au 1,5 degré, sans parler même des états insulaires.
Donc effectivement, vous êtes un peu dubitative. Amandine Rojman, vous êtes une nouvelle experte, on va dire, puisque vous faisiez partie des 150 de la Convention citoyenne pour le climat. Vous êtes formée dans ce cadre-là et vous êtes prise de passion pour ce sujet, au point d'aller à Glasgow et d'avoir, j'imagine, aujourd'hui un avis sur ce qui se présente.
Certainement un avis, mais aussi une envie de contribuer à cette pression globale dont parle Laurence à l'instant, qui est, et je pense, dans laquelle les citoyens ont leur place à jouer. C'est-à-dire, c'est ce dont je me suis rendu compte en allant à Glasgow, c'est cette opportunité de rencontrer d'autres citoyens, d'autres pays, qui participaient ou qui avaient participé à des initiatives similaires à celles de la Convention citoyenne en France. Et je pense que ces croisements, en tout cas d'expériences, ces échanges sont très intéressants et laissent à penser que c'est l'initiative et je pense la direction que les choses doivent prendre, cette manière d'impliquer plus les gens, aussi bien dans la consultation, puisque ça c'est une des premières choses, mais aussi dans la mise en application des propositions, qui est un petit peu le deuxième chapitre. Et en ce moment, à la COP, il y a une initiative intéressante qui s'appelle la Global Assembly, qui consiste à rassembler 100 citoyens du monde entier, qui se prononcent actuellement plutôt sur des grandes orientations vis-à-vis du climat, mais qui à terme devront suivre aussi et monitorer en quelque sorte les propositions et les actions décidées par les négociations et les négociateurs de la COP26.
Voilà,
et qui devront suivre leur mise en œuvre.
Et ne pas laisser uniquement les représentants des États discuter et trouver des termes qui parfois sont un petit peu vaseux, mais excusez-moi pour l'expression. On va partir dans la Meuse, retrouver Patrice. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous.
Merci d'avoir appelé France Inter. Vous aviez une question, Patrice.
Oui, je me demande si l'urgence ne serait pas de créer une organisation internationale indépendante de contrôle et surtout de sanctions vis-à-vis des engagements des États. Quand j'entends contrôle des engagements, je pense aussi de contrôle de la manière dont les États prétendent résoudre le problème du réchauffement climatique. Avec toute la panoplie des lobbies qui veillent au coin du bois, dont on connaît le pouvoir de nuisance, j'en prenais qu'un seul, par exemple celui bien français du nucléaire, que l'on présente comme la panacée, avec nonobstant tous les mensonges par omission proférés par le représentant dernièrement de RTE sur la sûreté, la gestion des déchets, le coût du démantèlement, qu'il a présenté sur votre antenne facilement puisqu'il n'avait aucun contradicteur. Voilà, je crois que c'est très important de se demander comment on va faire aussi pour lutter contre le réchauffement climatique.
Merci Patrice. Alors je laisse de côté la remarque concernant France Inter parce que je n'étais pas présente. Alors je ne voudrais pas me prononcer sur ce qui s'est passé, mais sur le fait de faire respecter, d'avoir une force pour faire respecter les engagements, Laurence Dubiana, parce qu'il n'y a rien de véritablement contraignant pour l'instant.
Oui et non. Enfin, vous savez, il n'y a pas de sanctions internationales aujourd'hui, il n'y a pas de cour de justice internationale sur l'environnement. On voit même d'ailleurs sur les droits de l'homme les grandes difficultés, en fait l'impossibilité même de faire respecter les engagements des gouvernements dans un accord international. Bon, il n'y a guère que les sanctions commerciales dans le cadre de l'accord du commerce qui fonctionne un peu. Mais en revanche, il y a quand même des manières d'exposer, au fond, parce que c'est ça le mécanisme, d'exposer, de rendre transparent et donc soumis à critique et à pression des uns et des autres, puisqu'au fond, cette lutte contre le changement climatique, puisqu'il faut qu'elle soit décidée aussi par les pays, et y compris par les entreprises, les investisseurs, parce que c'est des décisions qui sont prises dans beaucoup, beaucoup d'endroits à la fois, il y a guère que la pression. Donc, pour pouvoir exercer cette pression, il faut que, en tout cas, ce soit transparent. Alors, les pays, ils ont un mécanisme qui est d'ailleurs en train d'être discuté encore à cette heure, pour se surveiller mutuellement, c'est-à-dire publier leur degré d'émission, leurs inventaires d'émission à des périodes très régulières. C'est une grande bataille parce que certains pays en développement ne veulent pas avoir le même degré de contrainte que les pays développés. Donc c'est une bataille qui dure depuis Paris. En même temps, il faut savoir aussi que les moyens scientifiques aujourd'hui d'observation satellite permettent de connaître de mieux en mieux où ce se passe. Donc on a déjà un premier manière de surveiller, si on peut dire. Et puis ce qui a été très intéressant dans cette COP, et je m'en réjouis complètement, c'est que dans l'accord de Paris, on a bien vu qu'il fallait qu'il n'y ait pas que les gouvernements qui s'engagent, et qu'il fallait que les entreprises, encore une fois les investisseurs, mais aussi les maires des grandes villes et les présidents de régions ou des États dans des régimes fédéraux, s'engage aussi, puisqu'il faut que tout le monde le fasse en plus très vite maintenant, puisqu'on a 10 ans pour vraiment renverser la vapeur. Et Antonio Guterres, au premier jour, le secrétaire général de l'ONU, a fait une réflexion qui était vraiment intéressante, parce que ça a répondu d'ailleurs à la question que je me posais, en disant au fond, est-ce que tout ça n'est pas du greenwashing? Est-ce que toutes ces annonces qui ont fleuri dans la première semaine, parfois très intéressantes, notamment sur la réduction des émissions de méthane, qui n'était pas vraiment sous les projecteurs jusque-là, ou la déforestation, et tout ça, on pouvait se dire, au fond, tout ça, c'est volontaire, ça sera jamais, parce qu'on ne sait pas ce que font les entreprises pour de vrai, ou par exemple, les 130 000 milliards que Marc Carney avait annoncé de tout ce financement qui pouvait être mis au service du climat. Et Antonio Guterres a dit, bon, c'est très bien, mais on n'en sait rien. Et donc, il nous faut un mécanisme, et donc un groupe d'experts qui va travailler sur ces standards, cette obligation de publier les informations. Et là, je dirais, c'est là que les troisièmes forces pourront jouer, enfin les citoyens, les ONG, si elles ont suffisamment de ressources, pour dire, bah, vous avez dit que vous allez vouloir un net zéro en 2050, mais le scénario que vous proposez, les informations que vous donnez, tout ça n'est pas sérieux du tout. Et ça aura un impact négatif sur tous ceux qui ont prétendu faire. Donc, ce problème de vérité, surtout depuis maintenant tellement d'années qu'on négocie, maintenant que les gens ont pris des engagements, ça c'était bien, c'est à Paris, il faut qu'ils les renforcent régulièrement. J'espère que dans ce texte, on verra qu'ils doivent les renforcer dès l'année prochaine, parce qu'on a pris beaucoup de retard depuis 5 ans, mais il faut des vérifications. Et c'est tout à fait révolutionnaire ce que propose Antonio Guterres, parce que c'est ajouter une couche de gouvernance qui n'est pas seulement de se contenter de la bonne parole.
Vous êtes d'accord, Anne Bringo, du réseau Action Climat?
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de promesses creuses des États, ou des promesses à très long terme d'une neutralité carbone en 2050, 2060, 70, et peu de plans d'action très concrets sur les 5 années à venir. Or, c'est vraiment ça qu'il va falloir suivre de très près. C'est est-ce qu'on se met tout de suite sur la bonne trajectoire avec une baisse rapide des émissions de gaz à effet de serre? Pour l'instant, on n'a pas d'outils contraignants pour vérifier que les États font ça. Il va y avoir un reporting qui va être compliqué à faire. Donc là, concrètement, en tout cas, chaque pays maintenant doit faire le maximum, et c'est plus que ce qu'il fait actuellement. Et la France aussi va devoir jouer le jeu, parce qu'actuellement il y a une décision de justice qui montre que la France est en carence, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, elle a dépassé ses budgets carbone, donc les plafonds d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle ne devait pas dépasser. La justice a donné jusqu'à décembre 2022 à la France pour baisser encore davantage ses émissions, pour rattraper ce retard. On espère qu'effectivement le gouvernement actuel et les candidats s'engageront sur des mesures très concrètes ayant un effet rapide sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Avec toujours cette surveillance citoyenne, Amandine Rojman.
Oui, mais en fait, le travail de la Convention citoyenne, quand on y pense, il était assez concret. Il proposait très souvent des mises en application assez rapides, avec des délais qui n'ont pas toujours été repris. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, pour répondre aussi à votre auditeur, moi, un autre volet que je vois de ce contrôle un petit peu, c'est aussi le rôle des médias. Et je tiens à le souligner sur cette COP, on en parlait tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une médiatisation très intéressante et beaucoup plus soutenue vis-à-vis du grand public.
Notamment de France Inter, tout à fait. Mais qui fait toujours un gros travail sur ce sujet.
Voilà, mais je le dis parce que je pense que pour permettre aux gens de tangibiliser de quoi il s'agit quand on parle de 1,5 degré, de tout ça, le rôle des médias est clé. Et donc en fait, cette conscientisation et aussi cette capacité du coup à dire ce qui est fait est en accord ou pas avec ce qui est dit, est très important. Et donc voilà, je pense que c'est aussi
message
un rôle pour...
reçu 5 sur 5, je vous promets, on y veillera.
Il y a eu 3 décisions de justice contre des gouvernements en Europe, Allemagne, Pays-Bas et France.
Très important de rappeler tout ça. Nous allons retrouver Marc qui est dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Choisi ma question. Bonsoir à toutes et à tous. Alors j'ai une question très concrète à poser. Le gouvernement français a-t-il une position claire en ce qui concerne les prospections qui sont faites actuellement en Ouganda, dans une zone, paraît-il, protégée? Et quelle est sa position par rapport à ces prospections qui sont faites par totale. Voilà, je vous remercie.
Voilà une question précise. Merci beaucoup Marc. Anne Bringot du réseau Action Climat sur...
Eh bien non, justement, il n'a pas une position claire et c'est là toute l'ambiguïté. Effectivement, il y a eu cette annonce aujourd'hui de Barbara Pompili de la fin par la France du soutien financier à des projets d'énergie fossile à l'étranger. Or, on apprend en même temps que si ces projets sont associés à une éventualité de carbone, de capture et stockage de carbone, alors ces projets peuvent toujours se faire s'il s'agit du gaz jusqu'à 2035. Donc on voit bien ici le double langage et la position de la France, à ma connaissance sur le sujet, est toujours un soutien. Donc c'est quelque chose qui est évidemment totalement inadmissible et sur lequel on va continuer à se mobiliser.
Laurence Tubiana, c'est une fois de plus le diable se cache dans les détails par rapport aux toujours, annonces de Barbara Pompili aujourd'hui.
Oui, d'une part, le diable se cache toujours dans les détails et en même temps, si on regarde les scénarios que l'Agence internationale de l'énergie a publiés très récemment, pour rendre ou conserver la possibilité de limiter les températures à 1,5 degré, il faut qu'on arrête tout de suite les nouvelles explorations de pétrole ou de gaz. Et qu'on arrête très vite la production d'énergie fossile. Donc c'est juste la déconnexion aujourd'hui entre ce que dit la science et que il faut espérer que tout le monde écoute, notamment venant d'une agence internationale de l'énergie qui a surtout travaillé sur les énergies fossiles depuis sa création. Qu'au fond, là, on a juste une contradiction. Alors, on peut bien dire, si la France, si Total ne le fait pas, ça sera une autre compagnie, ou ça sera d'autres compagnies d'autres pays. Très bien. Mais à ce moment-là, on parle de compétitivité, on ne parle pas du climat. Et c'est ça qui me frappe, c'est la distance, ou la dissonance, comme on dit, cognitive, entre la gravité que personne ne nie maintenant, du changement climatique, et la réponse. Au niveau financier, au niveau des pratiques. Et c'est donc cette histoire de pétrole, c'est vrai. Enfin, Total, pour survivre comme entreprise, elle va pas pouvoir juste faire de la capture du carbone dont on ne sait pas, enfin, dont les quantités supposées seraient... D'abord, on pourrait pas couvrir la terre de forêt, parce qu'il faut quand même bien utiliser aussi le sol pour autre chose, ni d'ailleurs, pour l'instant, être capable de stocker ce carbone de façon efficace. On peut le faire, mais pour l'instant pas à grande échelle. Donc il y a une contradiction ces politiques de court terme sont vraiment une question de quand est-ce qu'on va arrêter. Et malheureusement, c'est dans les 10 prochaines années qu'on doit le faire.
Voilà, je pense qu'on a répondu à Marc. On va aller en Ille-et-Vilaine retrouver Loli. Bonsoir Loli.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, vous êtes à l'antenne.
Oui. En fait, moi, je me posais la question de savoir si pendant la COP26, on avait évoqué le problème des populations qui sont des migrants climatiques, les gens qui sont obligés de quitter leur pays à cause de ça et qu'on arrête aux frontières parce que ils peuvent pas avoir de visa. Enfin, voilà.
Merci pour cette question essentielle parce qu'on est au cœur évidemment du problème. Qui veut répondre, Amandine Rochman ou Anne Bringot peut-être?
Alors on sait effectivement qu'avec le réchauffement et la montée du niveau des mers qui pourrait impacter jusqu'à 10% la population mondiale, on parle vraiment d'impact énorme, il va y avoir énormément de déplacés climatiques. Alors ce sont pas forcément des réfugiés dans le sens où ils vont pas forcément quitter leur pays, mais ils seront obligés de quitter leur lieu de vie. Et il y a déjà plusieurs millions de personnes qui sont dans ce cas, soit parce qu'il y a eu des ouragans, des tornades, des inondations, etc. Donc face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'accord de Paris ou dans les discussions actuellement, il n'y a pas grand-chose de prévu, il n'y a pas de statut spécifique. Par contre, il y a un enjeu qui commence à être discuté malheureusement de manière insuffisante, c'est la question des pertes et dommages. Sandy Dauphin en parlait tout à l'heure. il y a des impacts irréversibles sur certains pays, notamment dans des pays qui ne sont pas du tout à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, des pays où le niveau des mers va monter, empêchant l'agriculture parce que les terres vont être remplies de sel bien au-delà du niveau de la mer, empêchant également différentes activités, obligeant des personnes à se déplacer avec des ouragans, etc. Et pour ça, il faut absolument une aide financière des pays qui, eux, sont responsables de ce changement climatique. Donc, les pays riches, cet enjeu des pertes et dommages, il est vraiment crucial. Il rentre petit à petit dans le projet d'accord, mais il n'y a pas d'engagement financier. Ça ne se matérialise pas par des finances actuellement. La France a un rôle vraiment clé à jouer avec l'Europe pour pousser pour l'inclusion dans l'accord qui est en train d'être discuté probablement jusqu'à demain soir, l'inclusion de dispositifs financiers associés à ces pertes et dommages.
Ce qu'on a cru comprendre quand on parlait de 100 milliards à l'échelle de la planète, Laurence Subiana, enfin, c'est pas la fin du monde, 100 milliards à l'échelle de la planète.
C'est des coupes des cacahuètes, on dit oui. Ça comme ça. Hein. Enfin, cette question des pertes et dommages dont parle Anne, alors c'est à tel point que c'était très intéressant. Hier ou avant-hier, la première ministre d'Écosse, puisque rien n'avançait, a décidé de créer un fonds pour les pertes et dommages financé par l'Écosse. Ce matin, avec plusieurs fondations, on a décidé d'abonder ces nouveaux fonds pour les pertes et dommages en rassemblant des philanthropes, puisque pour l'instant, les gouvernements ne le font pas. Je pense qu'il faut mettre la pression là-dessus. On peut comprendre que les pays voient avec effarement ce que ça signifierait financièrement. Mais il faudra bien traiter le problème. Les pays qui sont aujourd'hui sous ces impacts du changement climatique sont endettés. Ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes, alors que même les changements climatiques détruisent les infrastructures vis-à-vis duquel, pour lesquelles ils s'étaient endettés de nouveau. Et donc il y a une espèce de cercle vicieux de pauvreté et de fragilité, de vulnérabilité, qui n'a pas de fin. La première ministre la Barbade, et vraiment je conseille à tout le monde d'aller sur YouTube chercher son discours. Elle l'a fait le premier jour au moment des sommets, du premier jour dit des sommets des chefs d'État. Et elle a eu un propos, une colère froide, où elle a dit « mais que faites-vous ?» Et en proposant, elle, des mécanismes financiers, notamment d'utiliser les droits de tirage spéciaux qu'on essaye d'utiliser maintenant un peu davantage, mais en disant « vous ne pouvez pas rester comme ça ». Et je crois que là, à cette COP, les arguments légaux, les questions de responsabilité, éventuellement même les sujets de l'assurance, ont fait place à la confrontation un peu nue, un peu directe, qu'il faut trouver une solution financière.
Amandine Rojman, vous qui êtes allée à Glasgow en tant que nouvelle jeune militante pour le climat, parlez-nous un petit peu des coulisses de cette COP, ce que vous avez découvert, ce qui vous a étonné peut-être en arrivant sur place du côté de, parce que vous étiez nombreux, vous veniez d'un petit peu partout.
Oui, alors évidemment, il y a beaucoup de monde. Et comme vous le dites, je suis moins habituée que Laurence de ces rendez-vous, donc c'était une première pour moi. Il y a beaucoup de conférences qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Il y a une forme d'émulation qui est très stimulante. Mais je pense que pour moi, en tout cas, le plus intéressant, et ça va rejoindre la question de votre auditeur, c'était d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres citoyens, d'autres pays avec des réalités aussi climatiques autres. Parce que jusqu'à maintenant, dans le cadre de la Convention citoyenne, on était sur une réflexion nationale, avec certes des disparités entre les territoires nationaux. Mais là, tout à l'heure, on parlait de tangibiliser. Je disais, je pense qu'il est important pour les citoyens aujourd'hui qui ont envie de se mobiliser sur ces questions, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça représente. Et en fait, il n'y a rien de plus concret que d'entendre un autre citoyen à l'autre bout du monde dire, mais en fait, là, moi, j'ai dû déménager, quitter ma maison. Voilà, on parlait de ces déplacés. Il y en a déjà et il y en a plein. Et ce type de confrontation et de dialogue est possible aujourd'hui à la COP. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très précieux. Parce que finalement, on est une société qui fonctionne beaucoup à la force du témoignage. Et ça reste un argument de poids, je pense, pour les gens et pour comprendre l'urgence de ça. Et à la fin, il y a quoi au milieu? Il y a de l'humain, en fait. C'est aussi ça que ça veut dire. C'est pour ça que cette question, je la trouve finalement très belle et très intéressante. C'est ça, ça replace, en fait, l'humain autour de ses degrés, autour de ses chiffres. Voilà.
Sandy Dauphin, qui est à Glasgow, souhaite intervenir. Sandy.
Oui, juste pour ajouter qu'en effet, la société civile est en général très présente lors de ces COP et des représentants des communautés locales viennent témoigner. Et cette année était un peu particulière parce que, en raison de la crise sanitaire, il y a beaucoup de délégations qui n'ont pas pu venir jusqu'en Écosse. Et c'était l'un des regrets, je crois, des ONG.
Effectivement. Benoît est à Lille. Une question pour vous trois. Benoît, on vous
oui,
écoute.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir. J'ai été longtemps convaincu par Greenpeace et par d'autres que on pourrait se passer du nucléaire. Et je constate que nos besoins d'électricité ne cessent d'augmenter, et notamment avec le recours à la voiture électrique. Alors, est-ce que véritablement on peut se passer du nucléaire?
Alors, attendez, on a un petit souci de son dans le studio. En tout cas, peut-être que vous, derrière votre poste de radio, vous entendez Benoît. Benoît, est-ce que vous pourriez peut-être répéter votre question? On va voir si ça passe cette fois-ci, en tout cas dans le studio.
Oui, donc je répète, j'espère que vous m'entendez. Je disais avoir longtemps été convaincu qu'on pouvait se passer du nucléaire, notamment par Greenpeace et par les partis écologistes et autres. Et aujourd'hui, constatant que nos besoins d'électricité augmentent, ne serait-ce que par le recours à la voiture électrique, est-ce que véritablement vos invités pensent qu'on pourrait s'en passer de ce nucléaire?
Merci Benoît pour cette question que je vais répéter, parce qu'effectivement on a eu quelques petits soucis. Benoît vous demande à toutes les trois, pensez-vous que compte tenu de la situation, on peut vraiment se passer du nucléaire? Qui veut répondre? Anne Bringaud.
Alors,
du réseau Action Climat.
C'est une question qui est assez franco-française, parce que le nucléaire n'est pas une énergie qui existe dans de nombreux pays. C'est pas non plus quelque chose qui
en
est
tout cas pas à cette échelle.
Pas en train de se développer de manière très très forte non plus, donc ça reste assez marginal. Mais en France, c'est 67% de la production d'électricité, donc c'est important. RTE, qui est le réseau de transport d'électricité, qui gère les grandes lignes à haute tension, mais qui aussi regarde un peu en prospective qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer le système électrique, parce qu'en France, on a beaucoup de réacteurs nucléaires et ils vont arriver à un moment donné, il faudra les arrêter pour remplacer par d'autres moyens de production. Donc RTE a regardé 6 scénarios jusqu'à 2060, 3 scénarios.
On en a largement parlé, hein,
voilà,
sur cette
où
antenne.
On fait des nouveaux réacteurs, 3 scénarios où on ne fait pas de nouveaux réacteurs nucléaires. Et en fait, dans les deux cas, on peut faire, alors c'est plus ou moins difficile, mais l'option nucléaire est également assez difficile, on le voit à Flamanville, c'est aussi un peu un pari. Et puis, il y a des inconnus sur le financement. RTE dit que c'est moins cher avec du nucléaire. Les hypothèses de coût des EPR ont été quand même fournis par EDF, donc on peut se poser des questions. Il y a aussi des enjeux sur le taux de financement, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et on a un président qui souhaite relancer le nucléaire.
Mais voilà, on sait qu'on a les deux options qui sont faisables, en tout cas en France, on pourrait faire les deux. Il faut qu'il y ait un réel débat maintenant, avec les données effectivement de RTE qui donnent énormément d'informations, donc c'est très riche, mais qu'on puisse tous s'approprier cette question pour faire ce choix, et que ce ne soit pas effectivement uniquement le fait du prince.
Laurence Tubiana, sur la question du nucléaire, que dites-vous?
Oui, c'est très important que le mix énergétique, ça soit un débat national. On en a eu un en 2013, plutôt largement d'ailleurs sur la sobriété énergétique que sur le mix énergétique lui-même. Je pense que c'est tout à fait le moment. L'Europe nous dit qu'on doit réduire les émissions de 55%, au moins de ça pour la France d'ici 2030. Donc, on avait un objectif jusque-là de 40%. Bien sûr, notre électricité, elle est décarbonée en grande partie à cause du nucléaire, mais l'essentiel de la consommation énergétique française, c'est du fossile. Donc, on a un grand pas à faire, et rapidement, puisque c'est 2030. Alors, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, de toute façon, on est obligé de faire beaucoup de renouvelables si on veut être cohérent, hein, avec les objectifs européens de décarbonation de l'électricité. Deuxième chose, il faut donc c'est un gros choix national, c'est un choix d'investissement considérable de toute façon dans tous les cas. Il y a aussi toutes ces questions, est-ce que on veut que de l'électricité très centralisée, ou est-ce que aujourd'hui il y a la place pour une énergie qui vienne aussi des citoyens, hein. Il y a plusieurs pays qui se sont aussi engagés dans cette voie. Donc en tous les cas, il y a besoin d'un grand débat national sur le mix énergétique.
Amandine Rojman,
je vois
que vous hochez la tête.
Oui, je vais rebondir parce que c'était une
rapidement, parce qu'on va prendre une toute dernière question si c'est possible.
Tout à fait. C'était une des propositions de la Convention, c'est de diversifier aussi en fait la production d'énergie et d'avoir plus de formes autonomes de production d'énergie. Donc je pense que la question c'est aussi d'encourager toujours la diversification et dans cette diversification la production d'énergie renouvelable aussi. Hein. Voilà, c'est pas incompatible.
Vous êtes d'accord sur ce point. François est en Normandie. Allez, on va faire vite, François. Vous aviez une dernière question pour l'émission.
Oui, je vais être très court. Les pays semblent se mettre un peu la pression concernant les gaz à effet de serre.
On ne vous entend pas bien, François. Je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu.
Je me déplace. Vous disiez que les pays semblent se mettre la pression concernant les émissions de gaz à effet de serre, mais de la déforestation.
Merci François. Alors on vous entend tellement mal que je vais répéter. Qu'en est-il de la déforestation? Est-ce qu'il en a été question à la COP? Laurence Dubiana.
Tout à fait. D'abord, il y a des modalités de l'application de l'accord de Paris qui surveillent la déforestation et qui mettent heureusement, et c'est, ça a l'air de tenir, la question des peuples indigènes qui sont les personnes les plus impliquées hein, par la déforestation. Il y a des choses tout à fait... Il y a eu une déclaration intéressante, c'est pas nouvelle, mais qui était plus renforcée, qui a été signée par beaucoup de pays pour stopper la déforestation et au contraire restaurer les terres qui ont été déforestées. Donc il y a une attention très forte là-dessus. Ma seule inquiétude, donc la forêt est bien là, elle est même tellement là qu'une grande partie de l'idée de marché carbone repose sur cet arrêt de la déforestation. Et on a vu un pays comme le Brésil où, comme vous le savez, le gouvernement de Bolsonaro a accéléré énormément la déforestation amazonienne qui d'ailleurs se fragilise, hein, cette grande forêt se fragilise de façon croissante. Donc on a des menaces aujourd'hui très grandes.
Merci beaucoup Laurence Dubiana. Allez, en 10 secondes Anne Bringo déforestation.
Juste sur les marchés carbone, parce qu'en fait l'important c'est de ne pas déforester, mais souvent on propose de planter de nouvelles forêts contre effectivement des crédits carbone. Il y a énormément de risques là-dessus et c'est l'un des enjeux de cet accord qui est en train de se discuter, de ne pas avoir des marché carbone qui laisse ouvert la porte à tout et n'importe quoi, des doubles comptages, la reprise.
Merci, on a déjà débordé. Amandine Rojman, vous m'en voulez pas si je ne vous donne pas le mot de la fin. Un très grand merci à Sandy Dauphin aussi qui est en direct de Glasgow. Merci aussi à Martin Troadec qui est à vos côtés. Sandy, restez à l'écoute de France Inter. On vous tiendra informé des suites évidemment des négociations et de la déclaration finale de cette COP. Juste après les infos de 20h, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir, allez, vous avez. Ça va, genre, 3 secondes. On va parler des transclasses avec la philosophe Chantal.
Allez, on va vous écouter.